Je m'étais lancée dans cette affaire des nouveaux partages, donc si on peut parler de ça, entre raison et folie. Il m'est apparu que... Attends, je vais bouger un peu le micro, parce que c'est possible. C'est pas très... voilà. Il m'est apparu que c'était un sujet assez impossible à traiter comme tel. Vous croyez ? Ah ouais, merci beaucoup. Ça va, je vais parler les pieds en l'air et la tête en bas. Ah voilà, exactement. Donc, je ne sais pas qui parmi vous a assisté aux autres. Rien. D'accord, ah bah génial. D'accord. De ce thème-là, raison et folie ?
Pardon. C'est la troisième sur raison et folie. Avant, on avait commencé avec le désir.
Ah voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Eh ben donc, voilà, je vais prendre les choses par où je les ai abordées, c'est-à-dire en me disant que c'était quand même un sujet impossible. Donc, je me suis donc demandé comment j'allais me contorsionner pour arriver à traiter ça. Donc voilà, je vous propose cette réflexion sur le thème du partage entre folie et raison, et donc sur l'actualité de ce partage, si tant est qu'il y ait une actualité. Donc la question que j'annonçais dans la présentation de cette conférence pourrait s'énoncer donc assez simplement de la façon suivante. Y a-t-il du nouveau dans les rapports entre folie et raison ? C'est une vaste question que donc on pourrait choisir d'aborder de bien des façons. C'est aussi une question risquée puisque l'idée même de nouveauté ayant tendance à produire au mieux des illusions fort séduisantes, au pire des prophéties catastrophistes, entre ces deux écueils, c'est difficile de se situer. On a vu d'ailleurs donc se développer dans le champ de la psychopathologie, c'est-à-dire donc de ce qui s'occupe des maladies mentales ou des maladies du psychisme. On a vu se développer dans ce champ de la psychopathologie et aussi dans celui de la psychanalyse d'ailleurs, cette tendance consistant à considérer non sans méfiance les inventions symptomatiques d'un sujet, donc ces inventions propres dans sous forme de symptômes divers, moins comme le reflet d'une créativité tributaire des conditions sociales dans lesquelles il se situe, que comme une mise en cause des conditions de possibilité du sujet lui-même, celui-ci risquant alors de se dissoudre ou de disparaître. Que l'on songe par exemple au transsexualisme. Le fait qu'un sujet puisse dire ne pas se reconnaître dans son sexe biologique, autrement dit que dans une société donnée, il se trouve des gens pour s'autoriser à revendiquer une sortie de l'ordre naturel afin de construire le sexe dans lequel ils pensent pouvoir se reconnaître, a longtemps donné lieu à des diagnostics de psychose dans le champ psychiatrique ou psychopathologique donc. Il est vrai que la folie dépasse de beaucoup le cadre de la catégorie psychiatrique de psychose. Mais il est vrai aussi que c'est en s'intéressant à la folie comme psychose, c'est-à-dire comme maladie, avec une structure et des catégories définies, que la psychiatrie a construit son rapport à la folie. Vouloir changer de sexe en Occident n'est pas une idée très récente. Mais la mise en œuvre de cette idée, avec les moyens techniques que cela suppose, n'est pas vieille. Ce qui n'était en somme qu'une idée étrange, voire folle, est devenu une maladie. Or, justement, ce que j'aimerais travailler ce soir avec cette affaire du partage entre raison et folie, ce n'est pas ce glissement historique qui s'est opéré de la folie vers la psychose. Autrement dit, il ne s'agit pas pour moi de rabattre la folie sur la psychose. Car à procéder ainsi, on ne pourrait alors rien faire d'autre que de reconduire le partage que justement je souhaite interroger entre folie et raison. La folie resterait du côté de la maladie et la raison ne serait qu'un autre nom pour désigner la normalité. Alors il est presque impossible aujourd'hui de ne pas se référer à Michel Foucault et plus précisément à sa controverse avec Derrida lorsqu'on aborde le partage entre folie et raison, donc plutôt du côté de la philosophie. Donc je rappelle brièvement les grandes lignes de cette controverse. Dans son histoire de la folie à l'âge classique, qui date de 1961, Foucault soutenait que le développement du doute cartésien comme méthode de construction du cogito, le cogito c'est donc je pense, donc je suis, et tout ce qui, toute la réflexion et tout le travail de Descartes pour construire cette... Magnifique, merci beaucoup. Donc, Foucault soutenait que le développement du doute cartésien comme méthode de construction du cogito ne mettait pas en fonction de la même manière le rêve et la folie. Dans son développement, comme ça, des méditations, il y a plusieurs méditations, donc c'est une des grandes œuvres de Descartes, il en passe par des interrogations pour mettre en question ce que c'est qu'un sujet qui pense. Il en passe donc par deux exemples comme ça qui sont le rêve et la folie, les deux étant liés. Il met les deux en lien. Le rêve serait en quelque sorte pour Descartes un support acceptable, légitimé même du doute, tandis que la folie exclurait quant à elle radicalement l'exercice de la pensée. Soit je pense, soit je suis fou. La conséquence de cette alternative exclusive est donc que si je pense, je ne peux pas être fou. Dans son livre, Foucault consacre 3 pages à cette question, abordée par Descartes, donc, dans la première de ses méditations. Derrida résume ainsi l'enjeu de ces pages. Dans « L'écriture et la différence », je le cite, « la folie, l'extravagance, la démence, l'insanité semblent congédiées, exclues, ostracisées, hors du cercle de la dignité philosophique, privées du droit de cité philosophique, du droit à la considération philosophique, révoquées aussitôt que convoquées par Descartes devant le tribunal, devant la dernière instance d'un cogito qui, par essence, ne saurait être fou. » La controverse entre Foucault et Derrida prend son essor à partir de l'hypothèse que Derrida propose alors. Ces 3 pages que Foucault écrit consacre à cette question, où se joue donc l'éviction de la folie hors du champ de la raison, c'est le point central, organisateur, de cet ouvrage de Foucault. Donc, c'est 680 pages, hein, cet ouvrage que Derrida ramène à ces 3 pages qui seraient au fond le cœur de la problématique de Foucault, montrer que l'exercice de la raison en Occident exclurait la possibilité de la folie. L'histoire de la folie, donc, tournerait autour de ce point aveugle, c'est-à-dire donc son impossible dans le champ de la raison. Or, selon Derrida, tout l'édifice construit par Foucault pour faire parler la folie qui, en tant qu'exclue de la raison, est précisément ce point d'extériorité, ce dehors à partir de quoi la raison a à penser sa propre position, tout cet édifice, donc, reposerait sur une erreur de lecture que ferait Foucault de la thèse cartésienne. Selon Derrida, le cogito émergerait au contraire de son combat titanesque avec le malin génie. Au cours de cette méditation, Descartes suppose donc un malin génie qui viendrait tromper celui qui essaye de penser et d'établir son existence à partir de l'exercice de la pensée. Mais donc Derrida dit, en fait c'est pas vrai, il y a cette espèce de, au début de cette méditation, de confrontation de la raison avec ce malin génie, celui qui essaye de tromper celui qui pense, et donc voilà, de ce combat entre la raison et le malin génie, donc de cette lutte à mort, avec ce que Derrida nomme la folie totale, donc la mise en question radicale de la cohérence, de l'unité de la pensée. Tout ça, ça existe chez Descartes, ça n'est pas du tout ignoré, donc, alors que c'est ce que soutient Foucault. Donc laissons là la controverse qui n'est pas ce qui nous intéresse ici. Il reste que Derrida pointe une chose qui met le travail de Foucault dans une tension particulière. Cette folie qui serait exclue de la raison, il se propose, Foucault, d'en faire l'histoire en lui rendant la parole. Mais évidemment, demande Derrida, comment dire la folie dans la langue de la raison, la seule que nous ayons à notre disposition. C'est un paradoxe, donc. Hein, on fait l'histoire de la folie, on essaye de rendre la parole à une folie qui aurait été exclue de la raison, mais comment la faire parler, sinon dans la langue commune qui est toujours forcément celle de la raison. Sauf, bien sûr, et d'ailleurs Foucault s'y intéresse, si on passe du côté de l'œuvre d'art. Dans un article préalable à la controverse avec Derrida, intitulé « La folie, l'absence d'œuvre », qui date de 1964, Foucault soulignait, alors c'est donc un article où il est question des mises en jeu de la folie dans un langage qui est en même temps, qui échappe à celui de la raison, qui est le langage de la créativité artistique, justement, qui n'est pas le langage avec lequel on parle, donc qui est un langage inventé, enfin recomposé. Évidemment, on pense par exemple à Joyce qui réinvente la langue intégralement et qui en fait une œuvre d'art en tant que telle. Donc, dans cet article où Foucault examine les possibilités pour la folie de parler hors de la raison, il souligne justement que, précisément, la psychanalyse n'avait pas eu la naïveté de croire qu'elle pourrait donner la parole à la folie pour ensuite se mettre à son écoute. Il montre que l'opération pour la psychanalyse est exactement inverse. Il s'agit plutôt de désigner la folie comme étant ce centre du langage où le langage ne désigne pas autre chose que lui-même. Ce langage qui se désigne lui-même n'a rien à dire, ne dit rien. Il est silence, pointant le non-sens, folie comme silence. Il faudra bien un jour, remarquait donc Foucault, rendre cette justice à Freud, qu'il n'a pas fait parler une folie qui, depuis des siècles, était précisément un langage, langage exclu, inanité bavarde, parole courant indéfiniment hors du silence réfléchi de la raison. Il en a au contraire tari le logos déraisonnable, il l'a desséché, il en a fait remonter les mots jusqu'à leur source, jusqu'à cette région blanche de l'auto-implication où rien n'est dit. Je vais m'expliquer là-dessus. Cette manière de faire remonter les mots à leur source est particulièrement visible dans une petite situation clinique que Freud rapporte dans son compte-rendu du cas d'un névrosé obsessionnel qu'il baptise l'homme aura. Encore très jeune et entrant dans une rage terrible contre son père, le patient l'aurait injurié, donc son père, à l'aide de mots dont il disposait à l'époque, alors que celui-ci, le père, était en train de battre son fils pour le punir. Et donc le fils lance au père, à défaut d'avoir d'autres mots à sa disposition, et sous la forme d'une injure, « toi lampe, toi serviette, toi assiette ». Donc, l'enfant qui n'a pas encore à sa disposition beaucoup de mots de vocabulaire prend ce qu'il a sous la main et pour répondre à son père qui est en train de le battre, l'injurie, sous cette forme particulièrement surprenante, c'est-à-dire il regarde autour de lui, il prend les mots qu'il a à sa disposition, « toi lampe, toi serviette, toi assiette ». Donc ici, les signifiants « lampe »,« serviette » et « assiette » sont parfaitement insignifiants. Ils n'ont aucune signification, ils ne veulent rien dire, ils désignent simplement l'acte d'énonciation lui-même. Ce sont en quelque sorte des mots vides qui situent bien pourtant la source de tous les mots, M-O-T-S. Ils sont d'abord adressés à l'autre. Rien n'est dit d'autre ici qu'une adresse désespérée à l'autre. Il y a quand même quelque chose d'assez pathétique et désespéré dans ce cri de l'enfant donc, qui injurie le père de cette façon-là. Donc, on voit bien là se mettre en place le paradoxe qui constitue la cage dans laquelle le névrosé obsessionnel tourne comme un lion rugissant. Si pas, et effectivement, on entend les rugissements du toit lampe. Si parler, c'est toujours en quelque façon ne rien dire, puisque ce qui prime n'est pas ce qu'on dit, mais le fait qu'en parlant, on s'adresse toujours à un autre. Alors, ne rien dire, c'est encore continuer à parler, puisque mon silence dit ce qu'aucune parole ne saurait dire, à savoir que je ne peux jamais complètement dire ce que dit le langage. En un certain sens, on peut situer l'obsessionnel comme étant littéralement écartelé par cette alternative impossible. Un martyr, en somme, au sens étymologique, il témoigne, et avec la plus grande douleur, de cette folie au cœur de la raison, qui consiste à ne pouvoir dire ce qu'on dit quand on parle, puisqu'on dit toujours autre chose que ce qu'on dit, et de ne pas pouvoir pour autant se réfugier dans le silence, qui signifie déjà trop pour ne rien dire. Si l'on pouvait dire exactement ce qu'on dit, et rien que ce qu'on dit quand on parle, alors viendrait l'apaisement. Mais c'est précisément ce qui ne peut se faire. L'aspiration de l'obsessionnel est assez bien rendue par Gilles Deleuze dans une analyse d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Deleuze y invente la catégorie de mots blancs. Le mot blanc, c'est un mot qui désigne exactement ce qu'il exprime et qui exprime ce qu'il désigne. Il exprime son désigné aussi bien qu'il désigne son sens, son propre sens. En une seule et même fois, il dit quelque chose et dit le sens de ce qu'il dit. Il dit son propre sens. Par là, il est tout à fait anormal. Le nom qui dit son propre sens ne peut être que non-sens, dit Deleuze. Voilà le paradoxe qui est celui de l'obsessionnel. Les prouesses de la raison, auxquelles il s'adonne régulièrement, l'excès de sens, en l'occurrence, produire trop de sens, là où il n'y a pas assez de place, on pourrait dire, pour le contenir, produit du non-sens et rencontre ainsi une certaine forme de folie comme épurée. L'intérêt de la névrose obsessionnelle, l'intérêt toutefois d'en parler ce soir, pour tenter d'évoquer un peu différemment le partage entre folie et raison, c'est que cette structure psychique, la plus raisonnante de toutes, mais certes pas la plus raisonnable, loin d'exclure la folie, en fait au contraire le noyau de la raison. On a d'ailleurs souvent évoqué la parenté qui existerait entre névrose obsessionnelle et folie, ou plutôt entre les symptômes obsessionnels et la folie, puisque c'est seulement avec Freud que l'ensemble des symptômes obsessionnels est regroupé dans une catégorie unique rattachée à la structure névrotique. Avant Freud, les symptômes sont envisagés de façon éparse et leur qualification est fort intéressante pour nous. La psychiatrie du XIXe siècle parle de folie ou délire du doute, de délire d'interrogation, de maladie des scrupules, mais surtout de folie de conscience. Avec l'obsession s'introduit donc ce paradoxe, folie de la conscience ou conscience comme folie. Et avec Freud cesse le rapprochement entre symptômes obsessionnels et folie ou délire. La psychopathologie freudienne, c'est-à-dire la façon qu'a Freud de comprendre les troubles psychiques, en viendra à distinguer nettement le fonctionnement psychique d'ordre névrotique, qui concerne l'hystérie, l'obsession et un peu différemment la phobie, d'un fonctionnement psychique d'ordre psychotique, où l'on trouve en particulier la schizophrénie, la paranoïa, la maniaco-dépression. En quelque sorte, Freud dépsychiatrise l'obsession en lui faisant sa place du côté de la névrose. C'est précisément la tâche de la psychanalyse et non de la psychiatrie de s'occuper et si possible de soigner les névroses. Et Freud attend beaucoup de cette névrose-là, la névrose obsessionnelle, plus même que de l'hystérie qu'il a pourtant mis sur le chemin de la conception originelle de l'inconscient qu'il a proposée comme étant non pas un quelconque envers de la conscience mais la mise en fonction de la libido comme support de toute vie psychique. Il va jusqu'à dire en 1913 qu'un cas de névrose obsessionnelle bien exposé vaudrait l'exposé de la psychanalyse tout entière. Je vais revenir là-dessus. Donc, sur cette déclaration assez radicale qui est « la psychanalyse vaudrait la névrose obsessionnelle » ou en tout cas, il semble suggérer cette idée. Une chose me frappe beaucoup dans la névrose obsessionnelle, c'est la stabilité de ses expressions cliniques qui est absolument sans pareil. Depuis que les symptômes obsessionnels ont commencé d'être décrits, ils n'ont pour ainsi dire pas changé. Les mécanismes qui lui sont propres, le doute, l'inhibition et les contraintes, ainsi que ses thèmes d'élection, la religion, la morale, la mort, n'ont pas été modifiés par le passage du temps. On ne peut pas en dire autant de l'hystérique, qui ne fait plus de grandes crises de conversion comme c'était le cas chez Charcot, ni du schizophrène, dont le délire est toujours d'une manière ou d'une autre en prise avec la culture de son temps. Par exemple, on délire dans la schizophrénie avec les machines, voilà, ce qu'on ne pouvait pas faire au XIXe siècle de la même manière, ou avec les ordinateurs, ou avec les puces électroniques. Ce n'est pas du tout le cas chez l'obsessionnel qui a gardé ses thèmes intacts depuis qu'on parle de névrose obsessionnelle. dans les sociétés occidentales laïcisées qui se préoccupent encore de Dieu, comme sinon l'obsessionnel, s'interrogeant aussi bien sur la possibilité de son existence que sur les conséquences de sa disparition. L'obsessionnel est un anti-postmoderne, ou pour mieux dire, il est resté moderne. Pour lui, la question des valeurs, de la vérité, du bien et du mal reste posée. Il n'y a pas de relativisme possible, comme évidemment la postmodernité tend à le promouvoir. Alors que faire de cette stabilité qui vient battre en brèche l'idée de nouveauté que j'avançais prudemment au début ? Rien de moins nouveau apparemment, puisque précisément tout est stable, rien ou presque ne bouge. Être obsessionnel aujourd'hui, c'est très peu différent de l'avoir été en 1909. 1909, c'est la date de parution du récit de cas de l'homme au rat, qui est le grand cas de névrose obsessionnelle chez Freud. Alors donc, pour faire face à cette question un peu embarrassante, je vous propose un renversement de perspective dont je vais essayer de montrer l'intérêt. Si le névrosé obsessionnel continue à faire entendre la même voix d'un siècle à l'autre, n'est-ce pas que ce qu'il a à dire ne cesse pas d'être nouveau ? Si les symptômes de l'hystérie se sont indéniablement modifiés avec les changements de la société et de la culture, c'est que son discours s'y est épuisé et qu'il a fallu lui donner d'autres formes. On peut maintenant reprendre la proposition freudienne selon laquelle il existerait une homogénéité entre la psychanalyse et la névrose obsessionnelle pour en proposer un développement. La raison ne serait que l'enveloppe formelle de la folie. Si l'on entend par folie cette opacité du sujet à lui-même, où il se surprend à désirer l'interdit, à désirer ce qu'il ne veut pas, à ne pas vouloir ce qu'il veut, à ne pas vouloir ce qu'il veut, est-ce que le micro ne veut pas non plus, etc. Donc que la raison soit un symptôme de notre folie, que l'on ne puisse penser qu'en fonction de cette nuit que l'on porte en soi, que la pensée ne soit qu'une façon, en somme, de mettre un peu de lumière dans cette obscurité, voilà ce que la névrose obsessionnelle avait découvert avant la psychanalyse, mais à quoi la psychanalyse a donné une place qui fait valoir le déplacement du partage entre raison et folie. Là où la raison construit les édifices de la pensée, la psychanalyse en propose une généalogie qui fait toujours l'effet, et c'est bien cela qui est surprenant, d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est peut-être là que réside le vrai scandale de la psychanalyse, à en croire en tout cas l'impossibilité de digérer la nouvelle. Nous ne pensons pas pour les raisons que nous croyons. Et c'est bien ces cartes-là que la névrose obsessionnelle a retournées sur la table depuis longtemps, obligeant la philosophie à faire place à cette nuit du sujet. Car le névrosé obsessionnel ne peut pas résoudre le problème de son existence dans une formule telle que « je pense, donc je suis », parce que l'expérience qu'il fait de la pensée est justement inversée. Parce qu'il pense, et donc qu'il doute, il est empêché d'exister. Voilà par exemple ce patient que le psychiatre français Segla écoutait en 1895. « Je me dis tout à coup, » dit le patient, « mais est-ce que c'est bien moi qui suis ici ? Est-ce que c'est bien moi qui marche ? Et alors je fais des efforts inouïs d'appliquer ma conscience à cette inconscience pour me rendre bien compte que je fais les mouvements de la marche. Si bien qu'à un moment, pendant cette sorte de crise, avant la certitude absolue, je suis conscient d'un côté que je suis inconscient de l'autre. Être conscient que l'on est inconscient, penser sa propre inconscience, c'est ne pas pouvoir être là où l'on pense. De cela, il est des êtres qui ont pris acte, mais sans pouvoir s'en remettre, les névrosés obsessionnels. Ainsi écoutais-je l'autre jour tel patient me dire « Mais comment pourrais-je dire « je » puisque je ne sais pas ce que c'est qu'être moi ?» Quoi de nouveau, dira-t-on, dans le constat qui est fait ici, de la non-coïncidence de l'être avec lui-même ? Rien en soi, effectivement, répondrai-je, mais le maintien presque à l'identique des formes cliniques dans lesquelles cette non-coïncidence se représente électivement, couplé avec le fait que cela entraîne pour le sujet qui s'y trouve mis en jeu un désarroi et une surprise toujours recommencée, témoigne que ce cadre ancien reste toujours d'actualité, puisque s'y renouvelle sans arrêt la mise en question de ce partage entre raison et folie. Ainsi, le même patient s'interrogeait-il dans la suite de son constat, ne pas pouvoir savoir ce que c'est qu'être soi, n'est-ce pas très exactement cela, être fou, mais continuer à se le demander, n'est-ce pas justement faire preuve de raison ? Voilà. Bon, c'est moi, voilà, je vous livre mes réflexions actuelles sur ces questions qui tournent beaucoup pour moi autour de la névrose obsessionnelle et qui me semblent être une structure vraiment très intéressante qui, voilà, traverse le temps avec une stabilité absolument unique et qui repose les mêmes questions, si bien qu'on est quand même obligé de se demander comment c'est possible que des sujets posent les mêmes questions exactement, quasiment avec les mêmes mots d'un siècle à l'autre, sans que rien de ça, voilà, n'ait été modifié, ne modifie le rapport qu'on a à la raison et à la folie. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ces gens qui ne sont pas fous, qui ne sont pas considérés comme fous, et pourtant qui ont un rapport à la folie, voilà, particulièrement fin, et qui ils laissent traverser leur normalité, ils laissent la folie traverser leur normalité. Voilà ce que je trouve.